Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, au micro et à la technique Adeline Wickmans. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie d'une interview réalisée il y a maintenant presque un an. Interview assez particulière, puisque j'avais reçu trois personnes en studio. D'une part, Elena Despascal, membre du collectif Tout va s'arranger ou pas. Puis par ailleurs aussi sa maman, Véronique Detiers, qui est co-directrice de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Et Pierre Schoenbrodt, journaliste et réalisateur de documentaires au Centre d'Action Laïque. Alors je les avais reçus tous les trois pour parler d'un documentaire qu'ils avaient réalisé, un documentaire appelé « Tout va s'arranger ou pas », documentaire autour de la santé mentale des jeunes. Alors dans l'émission précédente, ils nous expliquaient que c'est Pierre au départ qui avait débarqué avec cette idée, alerté par sa compagne psy qui lui avait fait part en période de Covid du nombre croissant de demandes de consultations par des jeunes. Il s'est rendu compte qu'il y avait, quelque chose de très criant là derrière et il a décidé de travailler sur le sujet. Il a du coup contacté Véronique. Véronique qui, elle, en tant que relais auprès des parents, avait aussi le téléphone qui sonnait régulièrement avec des parents très angoissés. Et puis, elle l'a aussi vécu directement puisqu'Elena, sa fille, lors du deuxième confinement, a complètement perdu pied. C'est totalement distancié de l'école et s'est retrouvé en très très grande détresse. Donc voilà, c'est là qu'est née l'idée de faire ce documentaire, de suivre certains de ces ados. Donc dans ce premier docu, ils y suivaient trois ados, notamment au domaine, une unité de pédopsychiatres d'urgence. Et puis en fait, ce qui s'est passé est assez beau, hein. Et c'est que ce documentaire, lors des différentes présentations, qui étaient souvent suivies de discussions, ça a donné l'envie, ça a donné naissance à quelque chose de plus grand. Et donc du documentaire Tout va s'arranger ou pas, ils en sont passés au collectif Tout va s'arranger ou pas. Et c'est de ça qu'on va principalement parler aujourd'hui, ce collectif, ce qu'il a motivé, ce qui fait que ce collectif est né. Et puis on va aussi parler de la suite, évidemment, parce que ce documentaire est suivi d'un deuxième documentaire. Voilà, je leur laisse la parole tout de suite. Donc Pierre Schoenbrodt, Elena Despascal et Véronique Detiers qui nous parlent donc du collectif qui fait suite au documentaire Tout va s'arranger ou pas.
En fait, déjà, on n'a pas décidé qu'il allait naître. Enfin, il est un peu né au fur et à mesure. On a commencé, le premier documentaire a été fini. On a regardé l'avant-première. Je pense que c'était en septembre 2022, octobre 2022. Puis on a commencé à aller faire des projections. Et toujours suivi de débats où on rentrait en contact avec les gens qui avaient vu le documentaire. Parce que c'est important, après un documentaire comme ça, de ne pas juste laisser les gens sur là-dessus, quoi, sans avoir de discussion. Et puis, au fur et à mesure, on a fait de plus en plus de projections. Et en février 2023, il me semble qu'on a été au Parlement. Et pour moi, c'est un peu le moment où le collectif s'est créé. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Donc, et il y avait Saï et moi, donc, qui est aussi dans le documentaire, qui étions présentes au Parlement. Et on a fait intervenir une slameuse qui s'appelle Pincée de Coco et qui maintenant fait aussi partie du collectif. Et en fait, à ce moment-là, on a été projetés au Parlement et il y avait des politiques. Et c'est vraiment, enfin moi c'est le truc qui me marque, c'est là c'était la première projection où après il y a eu, on a fait un journal, il y a des traces de cette projection là et c'est un truc dont on parle souvent et on a des recommandations par rapport à ça et c'est vraiment pour moi ce qui marque un peu le début du collectif. Et depuis ce moment là, donc depuis février 2023, on continue les projections et il y a un deuxième documentaire qui est en route et le collectif continue à grandir, à s'agrandir.
Alors, le collectif, on y reviendra. Je vais peut-être juste refaire encore un petit saut en arrière. Hein. Si on repense au tout début, okay, les jeunes qui ont été interviewés dans le cadre du documentaire, donc les jeunes qui forment ce documentaire. Il y a Elena, il y a Saï dont vous venez de parler juste avant, donc qui continue à faire la promotion du docu. Qui est-ce qu'on y retrouve d'autre?
Donc à ce moment-là, c'est vraiment ce duo-là qui porte beaucoup. Il y a Luce aussi qui était là de temps en temps, mais c'était surtout ce duo-là qui était un petit peu à la base de cette mobilisation des jeunes. Mais ce qu'il faut dire peut-être, Véro, c'est ce principe d'horizontalité qui a commencé à vraiment être... comment est-ce que je vais dire, ces valeurs d'horizontalité dans les relations que nous avions avec les jeunes nous a paru indispensable pour sortir du même. Et cette horizontalité, en fait, elle est venue de la façon dont j'ai travaillé ce documentaire, suite aux conseils qu'on m'a donnés. Parce que quand on se retrouve avec une caméra, que ce soit face à trois jeunes adolescentes dans une salle de classe, comme on peut le voir dans le documentaire, ou au domaine, dans cette unité pédopsychiatrique d'urgence, on est là, avec sa caméra sur un pied, et puis qu'est-ce qu'on fait face à ces jeunes qui souffrent énormément, qui nous font confiance, et à qui on doit sortir une parole la plus authentique possible, sans les trahir en plus, quoi. Et ça, professionnellement, pour moi, ça a été vraiment un moment de réflexion très, très, très important pour se dire quelle place, moi, j'occupe dans cette histoire-là, comment je sors de mon rôle de journaliste traditionnel, parce que si je garde ce rôle-là, ça ne marchera pas. Entre un journaliste et les personnes qu'il rencontre, bah, y a quand même un état de déséquilibre, quoi qu'on en pense, même si on fait preuve du plus grand tact possible, bah, malgré le tact qu'on peut avoir, il y a quand même un rôle journaliste, bah, ça fait partie un peu de ses professions, comme les médecins, un truc un peu... Enfin, que moi j'essaye de dépasser, mais c'est pas toujours possible. Là, de toute façon, j'avais pas le choix. Il a fallu vraiment que je réinvente quelque chose, et c'est en mettant vraiment au sens strict du terme ma caméra par terre et en me mettant à hauteur des jeunes et en les écoutant et en me taisant qu'on a réussi à identifier cette horizontalité comme un moment très important si on voulait aller plus loin dans ce collectif. Et ça, avec Véronique, on y a beaucoup réfléchi à cette horizontalité qui, je sais, te tient à cœur.
Oui, moi, vraiment, je dirais lien, horizontalité. Moi, c'est deux mots qui me semblent essentiels et qui m'ont beaucoup fait réfléchir aussi en tant que parent. Hein. Mm-hmm. C'est comment on est là, comment on accompagne, comment on fait les choses. C'est pas toujours simple. Donc, dans tout ce processus, c'est aussi une éternelle remise en question. Hein, donc de réfléchir, de se remettre en question, pas toujours, hein. Il faut aussi mettre ses limites parfois, mais en tout cas, c'est un travail qui est c'est super intéressant parce qu'on fait vraiment un travail sur soi-même aussi hyper important. Je pense que aussi dans le documentaire, dans le premier documentaire, et c'est important de le dire parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes et des ados, mais on a aussi des plus âgés, du supérieur qui s'expriment. Qui expriment aussi toute leur souffrance et tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période-là. Et je pense que c'est hyper important parce qu'on l'a bien vu dans les projections, ensuite dans les écoles supérieures, dans les universités, combien la souffrance était grande aussi chez les plus... Bah, chez les post-ados, en fait, hein, que donc chez les 18-25 et force est de constater qu'eux aussi... On leur laisse peu d'expression par rapport à ces questions-là. Donc on est là maintenant, on travaille pour remettre cette question, de leur donner la parole à eux, de les laisser s'exprimer, aussi de les pousser peut-être à nous amener des solutions. Parce que, et que ces solutions viennent d'eux, pas nécessairement de nous. Et je pense que ça, c'est hyper important et on voit que ça donne du sens aussi quand ils réfléchissent, quand ils sont en projet, quand c'est eux qui nous amènent des solutions.
C'était une des volontés au départ quand vous vous êtes lancé dans l'aventure de ce documentaire.
L'horizontalité.
Pas tellement l'horizontalité, mais l'idée de réfléchir à des solutions ou pas du tout. C'était juste une. Enfin, Pierre, quand tu l'expliquais tout à l'heure, il y avait cette idée de. On constate qu'il y a une crise. Il faut commencer à en parler et voilà, le documentaire me semble une approche intéressante pour pouvoir le faire, ou est-ce qu'il y avait une volonté, pour rejoindre ce qu'Elena disait tout à l'heure aussi, une volonté de politisation dès le départ?
Non, pas du tout, mais c'est ça qui est formidable dans cette aventure, c'est qu'au premier jour du tournage au Domaine en février 2022, j'aurais jamais imaginé être 3 ans plus tard dans ce studio pour d'abord évoquer le numéro 2 et tout le projet qu'il y a maintenant avec en gestation des groupes d'entraide portés par les jeunes et avec nous les adultes en assiste. Jamais j'aurais imaginé ça. C'est ça qui est le plus fantastique là-dedans. Mais je pense vraiment que c'est quand même ce principe d'horizontalité qui nous a bouleversés, qui nous a forcés d'envisager les choses autrement, qui a permis ça, qui a rendu ça possible. Sans ça, on se serait quitté après la fin du docu et peut-être à l'avant-première, à la Vénérée au mois d'octobre 2022, on se serait quitté, on aurait peut-être fait un gros câlin et puis on se dit bon, à la prochaine fois. Et en fait, non, quand on s'engage dans cette relation tout à fait différente avec les jeunes, on se rend compte de la richesse qu'on peut en tirer et surtout des réflexions. Et puis alors ensuite, des propositions qui peuvent naître de cette réflexion, quoi. Parce que, évidemment, avec l'horizontalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'intelligence collective qui arrive tout de suite après. Et des envies de se mettre au travail et de se dire, mais on a des choses à dire, des choses à suggérer. Et ça, c'est ce processus qui s'est mis en place. Vraiment, c'est la façon dont on a revu la relation avec nos jeunes qui l'a permis, quoi.
C'est assez étonnant de vous entendre parler de ça, enfin je dis vous parce que c'est collectif. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a comme ça deux mondes. Il y a le monde des adultes, il y a le monde des jeunes, et comme si les adultes avaient oublié qu'eux-mêmes ils étaient ils ont été jeunes et étaient porteurs de réflexion, porteurs de volonté à l'époque. C'est pas un peu inquiétant?
Ah là, tu mets le doigt sur quelque chose de très important qui nous tient beaucoup à cœur aussi.
Inquiétant. Rien n'est perdu, hein, parce que tout. Je veux dire, je pense qu'on peut pas, on peut pas dire les adultes, tous les adultes, puisque la preuve en est, c'est que nous aussi, on est quand même 2 adultes ici, enfin 3.
Merci.
et que on est très conscient. Donc je trouve ça. Voilà, il y a de l'espoir, comme je pense qu'il y a de l'espoir. Ce qui est inquiétant, c'est de se dire que l'histoire se répète en fait, et c'est un peu insupportable en fait, de intellectuellement même, d'entendre les générations de génération en génération dire ah les jeunes quand même, hein, ah c'était mieux avant. Donc c'est, on a tous entendu ça. Je veux dire, et donc oui, c'est interpellant. À un moment, comment on fait pour changer de logiciel en se disant est-ce que c'était vraiment tellement mieux avant? Moi, je suis pas certaine. Donc et donc c'est comment on fait pour sortir de là? Alors j'ai envie de dire que aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que on sent globalement une montée des conservatismes et partout en Europe, et ça c'est inquiétant parce que ça peut et ça risque de faire beaucoup de mal à ces jeunes.
Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Comme dans toutes les chansons de Faria, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami. Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours t'écouter. Tout va pas changer. Enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf avancer. Rien à faire sauf avancer. On en rira quand on verra sous un jour meilleur. Jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur. Jour meilleur, jour meilleur. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer. Enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On rira quand on verra sous un jour meilleur. Jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur. Jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Elena, si on, bah si on se replace au moment du tournage, donc tu, pendant le tournage du documentaire, tu allais déjà un peu mieux ou le documentaire t'a aidé à avancer?
Pendant le tournage du documentaire, donc on était en mai 2022, mm-hmm. et donc j'étais passée par un hôpital de jour, mais ça allait pas mieux. J'étais toujours, il y a de nouveau une période de crise qui a suivi. C'était super compliqué pour moi. Et je sais pas si le documentaire m'a aidée directement. En tout cas, il a fait partie des choses qui m'ont fait avancer parce que moi, je me sentais très seule et je pense qu'il y a vraiment ce truc de mener un combat politique et collectif et en fait de se référer un peu à son engagement qui m'a permis d'avancer et de me rendre compte que c'était comme ça que les choses allaient aller mieux. Que, en fait, en essayant de changer les choses pour les autres et en faisant évoluer les mentalités et un système, enfin, à ma petite échelle qui n'est pas non plus énorme, bah, ça m'a un peu redonné espoir. Et c'est un peu la chose que j'avais perdue, où j'avais plus trop de vision sur l'avenir non plus, où je comprenais pas trop ce que je faisais, et ça m'a vraiment éclairé là-dessus, et ça m'a même éclairé dans ce que j'aimerais faire après et ce que j'aimerais étudier, et voilà.
Alors tout à l'heure tu parlais de ce moment de présentation du documentaire au Parlement. Moi je me souviens t'avoir vu, je crois la veille en classe, t'étais hyper en ébullition parce que ça allait être un grand moment. Est-ce qu'effectivement ça a répondu à vos attentes ce moment?
Je pense que ça, alors d'une part oui, parce que je m'attendais pas à ça. Enfin je savais pas du tout à quoi m'attendre, enfin j'arrivais pas trop à m'imaginer, et donc oui, mais il y a eu un peu aussi un truc de, enfin je savais que ça allait pas tout changer, mais il y a pas eu tellement de mesures mises en place, et en fait on a été parler au Parlement, enfin on a fait plein de choses, mais au final on voit que au niveau du gouvernement ça évolue pas non plus, cette question là c'est pas des choses qui sont prises en compte, ou alors c'est pris en compte mais c'est vraiment en surface, parce qu'en fait le problème il est plus profond que ça, il est systémique, et bien évidemment que on peut pas faire aller une population mieux si on continue à foutre la pression à tout le monde et tout ça. Donc c'est un peu, oui, ça, je m'attendais pas à autant et ça m'a vraiment fait du bien. Mais d'un côté, il y a quand même une part de déception, mais ça m'a pas empêché de continuer pour autant.
Mais je pense quand même que, comme Véro le disait, par rapport à cette relation adulte-jeune, il y a des choses très symboliques aussi qui se jouent derrière tout ça, derrière la résolution de la crise de santé mentale qui nous occupe aujourd'hui. Bien sûr, ça passera par des mesures, et des bonnes mesures, par augmenter la capacité des lits d'urgence. Hein. Je ne pense pas qu'il faille mettre ou engager tout à coup une ribambelle de psy. Ça ne servira... Là, je crois qu'on ferait vraiment fausse route. En revanche, dans... ces relations entre adultes et jeunes, je crois qu'il y a énormément de choses à faire et qui pourraient déjà soulager la situation. Et donc, moi, parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas un refinancement massif qui nous occupe, mais plutôt nos résistances, nos barrières d'adultes. Et on le voit quand on fait des projections dans les écoles. Parfois, faire différemment, proposer de faire différemment, ça ne coûte rien du tout. Et pourtant, ça paraît tellement impossible quand on discute avec certains professeurs, avec certaines directions, quand on leur dit ben, peut-être que on peut peut-être sacrifier par exemple une journée entière pour travailler le lien, travailler la place du jeune dans l'école. Mais c'est inimaginable. Alors il y a une autre mesure qu'on appelle de tous nos voeux et que c'est même peine perdue, c'est la question des examens. Aujourd'hui, on a deux années certificatives, la deuxième secondaire et la sixième secondaire. Pourquoi tant d'écoles continuent à organiser des examens, parfois deux fois par an, pour toutes les années, alors que c'est ce dont se plaignent les jeunes quand on prend le temps de les écouter. Et cette question des examens est aussi tabou que la question de la santé mentale. Et quand on évoque ces pistes-là dans certaines écoles, on dit « mais vous n'y pensez pas !» Parce qu'évidemment, on sait bien, on connaît bien la réalité du marché scolaire aujourd'hui. Certaines écoles ont bâti leur réputation sur ces évaluations extrêmement pressurisantes qui mettent vraiment fort à mal les élèves et ils ne veulent pas en sortir tout simplement. Et donc on ne sait pas en plus qui tient qui dans cette histoire-là. Est-ce que ce sont les parents qui alimentent ce système ou est-ce que ce sont les directions qui sont très soucieuses de leur réputation? Et donc voilà, c'est, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Et voilà vraiment la question des examens. On le sait, il y a une étude de santé publique de l'ULB qui a vraiment bien mis ça en évidence. Et j'ai été faire un reportage de 10 minutes dans une école extrêmement traditionnelle et qui utilise les examens comme méthode pédagogique principale. J'ai rencontré ces élèves qui se sont ouverts sur tout ce qu'ils ressentaient au fond d'eux. Mais ça va d'une anxiété, en passant par l'insomnie, avec des crises d'angoisse en arrivant à l'école. Enfin, vraiment, c'était des élèves de réto qui se sont ouverts sur la pression scolaire. C'est hallucinant ce qu'ils m'ont dit devant la caméra. Et d'ailleurs, avec le prof qui a manqué de s'évanouir tellement elle avait complètement sous-estimé à quel point ses élèves étaient fragilisés. Et voilà que cette question est, comme on dit dans ce pays, on ne bespreek bar. Les examens, on n'y touche pas. Quoi. Et ça, moi, ça me désole parce que voilà une mesure qui ne coûterait pas un euro. Et on est dans une espèce d'état d'impossibilité. Là, c'est vraiment désespérant.
C'est important, les examens, non? Bon, allez, je rigole. non, je rigole, mais c'est vrai que, en tout cas, je veux dire, c'est évoqué énormément par les jeunes. C'est, je veux dire, les élèves éprouvent de l'anxiété. Alors, je dis, et du stress. Et les évaluations augmentent, augmentent cette anxiété et ce stress. C'est prouvé, c'est documenté, c'est tout ce qu'on veut. Donc, c'est à un moment, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette logique, mais pas que à l'école, hein. Je veux dire, c'est la même chose dans les entreprises, et à l'objectif, atteindre des objectifs, être productif. Et donc, en fait, l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonctionne de la même manière que fait la société. Sauf que l'école, elle a quand même en charge des enfants, des adolescents, des jeunes. Et, enfin, en tout cas, moi, ma réflexion, c'est de dire, ils sont pas encore sur le lieu du travail, ils doivent pas encore être mis sous cette pression-là. Et il n'y a pas de raison de les mettre sous cette pression-là. Donc il y a aussi à un moment, comment est-ce que on prend en compte en fait l'élève dans sa dimension enfant, adolescent, parce que il n'est pas qu'élève, il est aussi ça. Et je pense que ça, il y a encore du chemin à parcourir. Et moi, comme maman d'élève, et maman d'adolescente, j'ai, à travers tous ces chemins et ces écoles, j'ai bien vu la différence entre certaines écoles. Et j'ai bien vu qu'il y avait moyen de faire autrement aussi. Et donc, et sans pour autant renier sur les exigences comme certains le prétendent. Donc je pense qu'il y a moyen de faire autrement et il y a urgence à faire autrement en tout cas. Parce que ce qu'on voit aussi, et on le voit fort dans le système, c'est que les écoles qui font avec et qui font pour ces jeunes, on retrouve une concentration de ces élèves dans ces écoles-là. Et ça ne va pas. En fait, ça ne va pas. Parce que, je veux dire, il faut arrêter avec ça, parce que du coup, on retrouve des écoles qui concentrent ces élèves et qui se retrouvent, eux, en grande difficulté. Donc, les enseignants eux-mêmes en grande difficulté. Et donc, il faut absolument cesser avec ces écoles qui cassent, qui abîment et qui remballent vers d'autres écoles. Moi, je pense que ça me semble aussi un beau combat à porter.
Mais c'était exactement, évidemment, à ça que je pensais quand je t'écoutais tout à l'heure, Pierre, disant certaines écoles, on va dire élitistes, qui refusent d'aborder la question des examens. Je pense que c'est aussi une manière de trier. C'est une manière de s'assurer un public solide.
Oui, et là, ça nous plonge face au combat politique qui est cher à Elena. C'est sûr que sur ce terrain-là, on mène un combat politique fort, pas simple, parce que, Véronique l'a dit, la nouvelle tendance politique n'est pas à la défense de nos propositions du tout. Donc ça ne va pas être simple de faire comprendre qu'il faut sortir des idéologies pour se dire là, on est dans un enjeu de santé publique sur lequel la gauche et la droite doivent s'accorder parce qu'il y a urgence. Les chiffres sont très mauvais. Les nouveaux chiffres, les nouvelles tendances que je dévoilerai dans ce nouveau documentaire ne sont vraiment pas bons. Ces chiffres sont complètement flippants même, il faut le dire comme ça l'est. Et donc on est quand même dans une situation extrêmement inquiétante. Je rappelle qu'il y a 500 000 Belges qui aujourd'hui sont en congé maladie longue durée. Les chiffres que je vais rapporter dans le numéro 2 qui concerne la jeunesse ne sont pas bons. Un jour, ces jeunes seront sur le marché de l'emploi. Je vous laisse imaginer, ce sera plus 500 000 personnes demain. En plus, on va remettre vaille que vaille au boulot avec des méthodes qui ne me paraissent pas être du tout opportunes non plus. Et donc là, on est vraiment quand même face à des questions de société où là, je me désole que justement, on ne sort pas de l'idéologie pour prendre en compte l'individu et son état psychique très mauvais, en fin de compte, quoi. On se dit, on est dans une logique extrêmement binaire. Les jeunes doivent étudier pour être les meilleurs citoyens de demain. Et les travailleurs qui sont en congé maladie longue durée, on va les remettre au travail. Et donc, en dehors de ça, c'est quand qu'on va se mettre à penser, à réfléchir et à se dire comment est-ce qu'on améliore les choses vraiment systémiquement pour faire société.
C'est autour de cette réflexion-là que c'est placé le basculement, je veux dire, chez vous, on a fait un documentaire autour d'une thématique qui marque une période, qui est très importante. Et puis l'idée de, un documentaire, ça ne suffit pas, il faut vraiment agir sur le terrain aussi. Et la création de votre collectif autour de tout ça.
Oui, d'une part, et aussi, en fait, le collectif s'est créé assez naturellement, mais autour d'une seule et même idée, c'est qu'il y a urgence d'agir et de faire des choses. Et il y a plusieurs choses dans le collectif. Il y a tout ce combat politique qu'on mène, mais il y a aussi du concret. Et on aimerait bien faire des choses plus concrètes, de rentrer en contact avec les jeunes. Et on s'est rendu compte, c'est toujours le même problème, c'est l'humain, c'est le fait que il y a des problèmes où on n'est plus en contact avec le groupe, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on tourne autour de ça, mais c'est vraiment... Enfin, je pense qu'on est tous dans ce collectif intimement convaincus qu'on doit remettre l'humain au centre, qu'on doit et qu'on doit re-rentrer dans des dynamiques de groupe, de dialogue, et en fait repenser ce système-là qui met une pression sur absolument tout le monde. Et donc on a d'une part ce combat politique, et d'une autre part le fait de vouloir agir concrètement, directement avec les jeunes, d'entrer en contact avec eux. Et ça, sans passer forcément par les adultes, mais de nous aussi rentrer en contact avec de jeunes. Et on n'en a pas spécialement parlé, mais il y a aussi toute la dynamique artistique qui rentre fortement en compte dans notre collectif, parce que, de nouveau, on est intimement convaincus que ça a sauvé plein de jeunes. Parce que, dans la dynamique artistique, déjà, il y a le groupe aussi. Parce que quand on fait de l'art, on l'exprime, et donc d'autres gens le découvrent. Et ça crée un contact. Et aussi, l'art, c'est une manière de s'exprimer. Et quand on n'a pas pu s'exprimer pendant des mois, quand on n'a pas pu dire les choses, bah, le fait de pouvoir les dire, les écrire, les dessiner, les construire, ça amène un soulagement. Et donc, nous, on est convaincus qu'il faut du politique, de l'art et du contact humain. Et plein d'autres choses aussi. Mais voilà.
Quand vous entendez ça, bah, c'est impossible de ne pas soutenir cette parole-là. Et c'est ce qu'on soutient avec Véronique et d'autres adultes qui nous ont rejoints maintenant.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Le collectif, c'est qui aujourd'hui?
Oula.
Ah oui.
Vas-y, Véro.
Oh, tu peux y aller si tu veux,
oui. Mais pour les adultes, et puis toi, tu prends pour les jeunes.
Voilà, donc au niveau du collectif, maintenant, on a été rejoint par des adultes aussi, mais tous concernés de près ou de loin par la problématique de la santé mentale. Donc je pense que ça, c'est aussi important, et c'est une évidence. C'est-à-dire que pour s'impliquer, de près ou de loin, on est confronté à cette problématique de la santé mentale, qu'on met aussi en lien avec la problématique du décrochage scolaire, hein, parce que je pense que l'un est articulé à l'autre. Et ce collectif grandit, enfin, en tout cas, il est vraiment en train de grandir. Et donc là, on est en train de réfléchir à la manière dont on va tout à fait l'officialiser et le formaliser pour lui donner une existence même juridique, en fait.
Et donc pour les adultes, il y a quand même Justine qui est éducatrice dans une maison de jeunes de Liège. Il y a Hélène qui a perdu sa fille d'un suicide il y a 2 ans. Il y a Géraldine qui est photographe et qui est la compagne de la directrice de l'Athénée de Verviers qui témoigne dans le numéro 1 et qui est vraiment fascinée par ce qu'on fabrique et qui, elle le voit, elle, au balcon, quand sa compagne lui parle de tous ces défis à l'intérieur de son école. Elle pense vraiment qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et puis alors, ce qui est important de dire, c'est que Dr Mas, Sophie Mas, Emmanuel Monneron, un psychiatre en France, Olivier Luminet, professeur de psychologie de la santé à l'UCL, sont des personnes qui sont jamais loin de nous. Alors, ce ne sont pas des membres aussi actifs que les autres, mais ce sont toujours des personnalités ressources qui soutiennent notre combat et surtout qui peuvent nous aider parce que, je le disais en début d'émission, la santé mentale, c'est complexe et il faut quand même qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et ces personnes nous aident, sont toujours présentes aujourd'hui pour nous aider à éviter de commettre des erreurs. Et puis il y a les jeunes.
Et concernant les jeunes, je dirais que le noyau un peu du collectif, ça va être Sai, Pincée de Coco et moi. Et on a toutes les trois un peu notre ligne d'action, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, Sai, c'est quelqu'un qui... Ça lui tient très fort à cœur le lien avec les jeunes, le fait de créer des espaces de parole, de pouvoir libérer cette parole et d'écouter les jeunes. Et c'est quelque chose qu'elle met énormément en avant. Pincée de Coco, elle a amené une dimension artistique qu'on n'avait pas spécialement au début. Et en fait, elle a été invitée pour slammer à la fameuse projection au Parlement en février 2023. Et depuis, elle est avec nous dans le collectif et elle est dans le deuxième documentaire. Et elle va aussi beaucoup questionner les politiques, notamment sur la précarité et sur le fait qu'il n'y ait plus de place dans les hôpitaux. En fait, vraiment de l'urgence qui se passe dans le milieu psychiatrique et de toute l'atrocité qu'on ne voit pas forcément. Et moi, ça va être aussi plus le pôle politique et de remettre en question tout ça parce que moi, je suis intimement convaincue qu'il y a toute une question d'engagement et de réflexion systémique à apporter. Et voilà, on se complète un peu à trois là-dessus. Alors, chacune n'a pas son pôle. Enfin, on est toutes, on participe toutes les trois à un peu à tout. Mais voilà.
Puis il y a le numéro 2 qui a précipité quand même un petit peu les choses puisqu'on a eu une session de tournage le 1er février, il y a juste un mois, qui a été un moment assez dingue. où on a réuni, suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux par SAI, une quinzaine de jeunes, dont certains venaient de loin, de Lyon, qui ont pris le train pour venir nous rejoindre, pour participer à ce tournage, de Strasbourg, de Tournai, de Liège. Tous ces jeunes sont venus, ont répondu à l'appel, étaient là le 1er février pour témoigner de la difficulté qu'ils ont vécue lorsqu'ils étaient hospitalisés. Et puis, on n'a pas fait que tourner pendant cette journée. Et dans tous ces moments où la caméra ne tournait pas, on a été fascinés, Véronique et moi, et Géraldine, la photographe dont je parlais là tout à l'heure, qui prenait des photos, de voir à quel point le lien, de nouveau, a fait un travail incroyable, Elena. Ouais. Hein, c'était quand même assez fou.
Ben, moi, les moments que je retiens de cette journée-là, enfin, c'est un moment très précis, c'est même pas le tournage en soi, enfin, si c'était très important, mais à la fin de la journée, on a tous été boire un verre. Et on s'est tous assis autour d'une table et on a tous commencé à lire des textes qu'on avait écrits. Et c'était... Et après coup, je me suis dit, c'est dommage que ça n'ait pas été filmé. Mais...
Ah, ça a été filmé en partie, oui, avec un téléphone, filmé, mais on va utiliser ça.
C'était super riche et c'était vraiment un peu hors du temps comme ça. Et c'était une démonstration de toutes les valeurs qui nous tiennent à cœur, l'art, le lien. Et c'était vraiment une démonstration de tout ça et c'était assez incroyable et assez riche comme moment.
Oui, certains jeunes ont pour la première fois osé lire tout haut des textes qu'ils avaient écrits depuis parfois très longtemps. Et c'était un moment suspendu qui montre qu'en peu de temps, quand on partage beaucoup de choses en commun, la profondeur du lien peut rapidement se construire. Parce qu'en fin de compte, ils ne se sont vus qu'une journée. Et là, on recommence pour la séquence finale et on voit plus loin, puisque la séquence finale du documentaire, c'est réunir tous les jeunes qui ont participé, ces jeunes du 1er février, mais aussi ceux de Tournai qu'on a rencontrés, qui sont des jeunes en décrochage scolaire, pas nécessairement en souffrance psychique intense, mais quoique, évidemment, quand on est en décrochage, c'est qu'on va rarement super bien quand même. Mais aussi, on les a invités à venir nous rejoindre, cette fois ce sera samedi, le 1er mars, pour tourner cette séquence. Et on est chaque fois, en tant que journaliste, je suis complètement impressionné par la rapidité du oui et la facilité de mobiliser ces jeunes. Et donc là, on a 10 jeunes qui viennent de Tournai en train pour venir participer à cette session de tournage. On ne s'est jamais vu que 3 fois. Et c'est vraiment une leçon assez incroyable pour l'adulte que je suis de voir à quel point ils ont envie. Ils se mobilisent avec sérieux parce qu'ils sont bien plus ponctuels que moi. Et ils ont une analyse. On a entendu Elena pendant cette émission. Enfin, je veux dire, le niveau d'analyse. Mais déjà, lors du premier, moi, j'avais été bouleversé. Je ressortais de certaines séances d'interview avec le tournis, tellement leur lucidité m'impressionnait et me donnait vraiment le tournis. Moi, je, quand j'étais jeune, que j'avais leur âge, j'étais quand même dans un espèce d'hédonisme et dans une insouciance complètement à l'opposé de leur niveau de lucidité. Et donc voilà, on peut le dire, on lance des groupes d'entraide, je pense que c'est important.
C'est l'idée, en tout cas, l'idée de ce qui ressort, c'est que... Évidemment, il faut des professionnels de la santé mentale. Évidemment que c'est essentiel. Mais on voit aussi que, loin de la santé mentale, on peut tout à fait faire des choses. Et notamment libérer la parole. Nous, quand on était avec ces jeunes et on a fait ce tournage, aucun d'entre nous n'est psy, ni... On est là en tant qu'être humain, et je pense que ce qui est important, c'est comment le groupe, collectivement, peut arriver quelque part à faire lien, en s'exprimant, en échangeant, de manière sécure, en fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment aussi très très important, c'est qu'ils se sentent en sécurité. Et c'est vraiment essentiel, et je pense que ça veille au grain de la sécurité du groupe. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des espaces où les jeunes puissent venir créer des projets entre eux, sans nécessairement l'intervention d'un adulte ou d'un ou d'un thérapeute pour faire un espace de parole régulé. Mais c'est de leur laisser le champ libre pour créer, pour avancer avec la force du groupe. Et on pense que c'est quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui nécessairement. Et on veut, en tout cas, tenter l'aventure d'essayer de leur donner la place à eux de créer, de s'inventer, avec le soutien évidemment d'adultes. Hein. Je veux dire, on n'est jamais loin, mais on pense qu'il faut leur donner la conduite de tout ça.
Mmh. En fait, le truc, c'est que vu l'état de saturation et l'importance et l'ampleur de la crise de santé mentale, qui ne concerne pas que les jeunes d'ailleurs, ce serait injuste de laisser la seule responsabilité de la résolution de cette crise au secteur de la santé mentale qui lui-même est dans un état d'épuisement majeur. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vraiment le cas. On est quand même dans un secteur où certains services parfois fonctionnent pas à plein régime parce qu'il manque des postes, il manque des candidats et des postes sont restés vacants parce qu'il n'y a pas toujours des personnes pour les remplacer. Et donc on est là-dedans. De se dire comment est-ce que la société peut aussi avoir son mot à dire dans un sujet qui est certes complexe, où il ne faut pas s'improviser thérapeute, hein, c'est pas du tout ça l'idée que je... Non, mais on a quelque chose à faire. Chaque métier doit se poser la question de savoir quel rôle je peux jouer en matière de résolution. Tout modeste, la réponse est telle, hein, mais en tout cas de se bouger pour se dire j'ai aussi mon mot à dire. Je reviens aussi avec la question des secteurs professionnels. Je pense que les patrons doivent eux-mêmes se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier cette question de la santé mentale. Mais c'est pareil aussi au niveau des administrations. On a aujourd'hui un taux de non-recours au droit social très important dans ce pays. Ben, il en va de même également pour les jeunes. Un jeune qui se retrouve au CPS, j'en ai accompagné certains au CPS, j'ai vu à quel point les violences institutionnelles peuvent fragiliser encore plus des personnes qui le sont déjà. Donc, tous les secteurs de la société sont concernés, je le répète, les chiffres sont là pour le rappeler. Et donc il va falloir aider en fait le secteur de la santé mentale à faire face à cette crise. Ne les laissons pas seuls, ils sont déjà trop fatigués.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout à Véronique Detière, Elena De Pascal et Pierre Schoenbrod de m'avoir accordé cette interview. On les retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie de cette discussion. Alors après le premier documentaire, après le collectif, eh bien, on va passer au deuxième documentaire, évidemment. Voilà, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. D'ici là, portez-vous tous et toutes très bien. Au revoir. What?